Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, évidemment, je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui. Toute la clique habituelle, Miguel, Rémi, Vincent. Salut les gars, comment allez-vous?
Hello tout le monde.
Gus. Salut tout le monde.
J'espère que vous avez fait vos devoirs parce qu'aujourd'hui, nouveau concept. Ça s'appellera donc Coach Them All et je vous explique tout de suite le principe. On choisit un coach de l'histoire de la NBA, actuelle ou passée. Et ensuite, on doit du coup choisir le top 5 des joueurs qu'il a coaché dans toute sa carrière. En passant du coup par toutes les équipes, etc. Pas mal de recherches ont été faites par l'équipe. Et Rémi va nous présenter le coach que l'on gère aujourd'hui.
Exactement. Je complète juste ce que tu dis. Bien vas-y. Attention, on a quand même des critères. On prend le niveau du coach, du joueur, en étant passé sous le coach en question.
Bah bien sûr.
Genre on prend pas l'ensemble de la carrière du joueur. On est bien,
bien sûr.
D'accord là-dessus.
Bien sûr.
Yes, et bah aujourd'hui, du coup de toute façon vous l'avez tous vu sur la miniature, parce que vous nous suivez tous sur les réseaux, on va parler de Doc Rivers. Alors pas de blague messieurs s'il vous plaît, je pense que Gus en fera suffisamment tout le long de l'année en supportant Phila.
Il y a des chances.
Doc Rivers, je vais vous faire son petit CV avant qu'on commence. Doc Rivers, donc, il a commencé sa carrière en tant que coach, en tant que head coach à Orlando en 99. Donc, il a été à Orlando de 99 à 2004. Puis, il a été de 2004 à 2013 le coach des Boston Celtics. Il a gagné le titre avec les Celtics en 2008 et il a été jusqu'en finale, mais il a perdu en 2010. Mm-hmm. En 2013, il va coacher les Los Angeles Clippers jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, donc depuis 2020, il s'occupe des Philadelphia Sixers.
Pour mon plus grand plaisir.
Exactement. rien forcément de plus à ajouter, si ce n'est qu'on peut...
Il a un coach de l'année,
en effet. En étant
sa première saison.
Ouais, exactement. Donc plutôt pas mal, en vrai, pour un coach de l'année. En plus, il a un bilan à l'équilibre, 41-41. Ouais. Mais avec l'équipe qu'il a, assez surprenant qu'il réussisse à... qui réussissent à faire un bilan aussi bon, j'ai envie de dire. Donc ouais. Voilà, il y a débat sur ce coach de l'année, il y avait Phil Jackson hein, qui était derrière quand même. Mais bon, pourquoi pas, de toute façon c'était il y a 20 ans, on ne pourra pas lui enlever.
C'est clair, c'est trop tard.
Avant qu'on se lance dans notre top 5, on donne des petits noms comme ça qui sont passés sous les mains de Doc Rivers?
Bien sûr, allez c'est parti.
Et ben, on a Dwight Howard qui est passé sous Doc Rivers il y a deux ans, avec les Sixers. C'était un Dwight Howard vieillissant, il a apporté un peu ses minutes sur le banc en backup de Joel Embiid, mais bon, pas de quoi pouvoir rentrer dans le top 5, hein. Désolé Dwight.
Non, pas du tout. Moi j'ai Jermaine O'Neal en fin de carrière.
Exactement.
Donc Jermaine, on connaissait le joueur, mais... voilà, exactement.
Ouais.
Mais c'était fin de carrière, donc ça rentre pas évidemment dans les noms qui vont suivre.
Vincent, t'as un petit nom à nous donner là, une petite mention?
On a des mentions, on a pas mal de mentions. On a Montrezl Harrell qui a été sixième homme de l'année, il me semble, avec sous Doc Rivers. Donc Montrezl Harrell, ouais, ça se mentionne. Je pense que ça rentre pas dans un top 5, mais ça se mentionne.
Non. Migos, une mention?
J'ai pas envie de spoil justement parce que c'était
non,
assez
on peut donner
de
des mentions.
Petit Patrick Beverley.
Ouais. Allez. Voilà, on a du Patrick Beverley.
Ouais, doucement.
On a du Lou Williams, on a du Jamal Crawford, je pense pas que vous voulez rentrer dans le top 5 quand même.
Attends ouais, Vincent. Vincent peut-être, je suis pas sûr.
Jamal Crawford. Ouais, il est en 1 chez moi, c'est pour ça.
OK. On a du Reggie Jackson, on a du Nate Robinson aussi en arrière.
Vas-y, j'en ai un beau, frère. Bah, le GOAT pour certains, le White Mamba, Brian Scalabrine. Mais oui, mon gars.
Avec son numéro 44.
C'est vrai, exactement.
Ah putain, ouais. Un maillot de légende, ça, en vrai.
C'est vrai.
Trop kiffant.
On a eu les frères Wallace aussi. On a Ben Wallace et Rachid Wallace aussi, qui sont venus en fin de carrière du côté de Boston.
Ok, mais tu vois, justement, je cherchais l'équipe dans laquelle ils étaient passés. Et okay.
Ouais. Ils sont passés à Boston, sous Doc Rivers, mais bon, ils sont restés un an. Ouais.
Parce que Rachid Wallace, j'ai souvenir, mais Ben Wallace, je te vois.
Ben Wallace, c'était peut-être pas à Boston, je l'ai trouvé.
C'était pas plutôt à Orlando en début de carrière.
Je crois que c'est à Orlando en 99-2000.
C'est plus à Orlando en début de carrière.
Ouais, exact. Pour Ben Wallace, ouais. On a aussi Michael Pietrus, un petit français.
Ouais, Frenchie.
Je voulais le mentionner.
Ouais, il l'avait bien mis en défense sur Bronbron en. en playoff, en finale de playoff en 2009-2010.
Ah non, ah, ok.
Quand le...
Oui, sur la finale de conf.
Ah mais non, je suis un ouf, c'était quand il était au Magic. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Mais si, il a dû le mettre en défense sur LeBron quand même.
Oui, il y a des chances.
Ça me choquerait pas non plus.
On attaque le top 5 du coup, les gars ?
Allez, bah, c'est parti.
Allez, pour une fois, Gus, c'est toi qui commence.
Allez. Allez, tiens, mouille-toi en premier, tiens, là, à chaque fois, on se fait niquer, mon gars. À chaque fois, il est là, vas-y, Vincent, qui en premier, ou... vas-y, toi, Gus, en premier.
Eh bien, vas-y, moi, c'est parti, mon 5, RPZ, les Sixers, c'est Joel Embiid qui rentre en 5. Okay. Il s'arrêtera là, tout simplement parce que quand Doc est arrivé, bah, ils ont fini premier de l'Est, avec un Joel Embiid énorme. Bon, il y a eu toutes les histoires avec Ben Simmons, etc. La saison suivante, on arrive avec un Joel Embiid qui fait sa meilleure saison en carrière, une calibre MVP, et bon, ça fait que quatrième, mais ça a resté une saison correcte. En plus de ça, bon, il y a eu quelques désillusions en playoff, mais bon, il y a eu de la win, et je pense que le rapport entre les deux n'est pas terminé, et qu'il y a des chances que peut-être ça fasse quelque chose plus tard. Donc moi, c'était plus pour l'impact que Joel Embiid a pris à l'arrivée de Doc Rivers. Il a vraiment passé un stade de... Il était déjà franchise player, mais je veux dire, dans ses stats, etc., il a complètement... dépasser ce qu'il était capable de faire sous le 5 de, avec Ben Simmons notamment, donc c'est l'émancipation de Joel Embiid en tant que cador de la ligue quoi. Donc voilà, je le mets 5ème.
Et vas-y Migos, enchaîne.
Bah, je complète parce que j'ai aussi Joel Embiid okay. en 5.
Vas-y.
Let's go.
En fait, il est pas plus haut parce que ouais, on a que deux saisons vraiment complètes, mais deux saisons incroyables.
Il finit deux fois deuxième au vote de MVP.
Ouais, c'est ouais. ça. Si Jokic n'existait pas, je pense qu'il serait déjà plus haut dans cette discussion. Ouais. Mais ouais, non, c'est super fort. Si on laisse la saison que Doc Rivers continue chez les Sixers, bon, ça reste une autre question, et que Joel Embiid nous refait une saison comme ça, je pense que là, on peut parler de lui. On peut parler en haut de ce classement, mais là, ouais, deux saisons au top, mais pas plus haut pour moi parce que ceux qui sont au-dessus, on en reparlera plus tard.
Je peux ajouter aussi que c'est vrai qu'à l'arrivée de Doc Rivers, ce qui a changé, c'est que toutes nos attaques sont passées par Joel, même avec la saison avec Ben Simmons.
Ouais.
Et du coup, ça en a fait un tout ce qu'il est capable de faire sur ce qu'on voit aujourd'hui sur cette saison. C'est des choses qu'il a pu développer parce qu'on lui a donné quasiment tous les tickets, alors qu'avant, bah, il avait peut-être un peu moins la balle parce qu'il y avait d'autres mecs à nourrir. Il y avait notamment les Tobias, les Ben Simmons, ça prend les ballons quand même. Mais là, du coup, on a concentré le jeu sur Joel et du coup, ça a bien marché. La preuve, l'année dernière, le pivot, ça faisait je sais plus combien d'années qu'un pivot n'avait pas dépassé 30 points de moyenne. Donc voilà.
Okay. Vincent, c'est qui ton top 5 ?
Pour mon 5 ? C'est un Clippers, c'est pas Joel Embiid du coup. Joel Embiid, on en reparlera peut-être après. Moi, c'est Blake Griffin que j'ai en 5.
Ok.
Pour Doc Rivers. J'ai mis Blake Griffin parce que moi, dans mon top 5, en fait, j'ai pas priorisé, mais j'ai accordé de l'importance à la longévité en fait que les joueurs ont performé sous Doc Rivers.
Ok.
Alors au final, je vais un peu me contredire en fait avec le choix d'après. Mais du coup, j'en parlerai après de celui que j'ai mis. Mais
Blake Griffin, il fait 5 ans sous Doc Rivers ?
Blake Griffin, il fait 5 ans sous Doc Rivers. Il passe jamais sous les 20 points. Il fait son année de rookie sous Doc Rivers.
Ouais.
Et il est une fois podium MVP la deuxième année. Là. Et en fait, les Clippers performent en fait, à partir du moment où il y a Griffin et que Griffin est le leader en fait, de cette équipe, au niveau statistique surtout. Parce qu'on sait qu'il y a Chris Paul avec lui. C'est Chris Paul qui gère le truc.
On en parlera peut-être plus tard, Griffin, je pense, de Chris Paul. C'est pas impossible.
Mais voilà, moi j'ai mis Blake Griffin en 5 parce que voilà, 5 saisons avec Doc Rivers, des stats plus que correctes. Et puis,
tu peux donner le petit point stats, s'est maintenu sur toutes les saisons avec Doc. Il est resté sur autour de 22 points, 8 rebonds, 5 passes, à peu près 50% au tir. Donc c'est très correct. Hein.
Donc c'est plus que correct.
Multiple All-Star, on le sait.
Eh bien, moi pour ma part, j'ai Tracy McGrady. Okay. J'ai fait rentrer T-Mac. Il y en a peut-être qui l'auront plus haut à voir. Moi, je l'ai mis que 5ème. J'ai eu du mal à le caler, hein, je dois avouer. Parce qu'en fait, il fait que 4 saisons avec le Doc, donc du côté d'Orlando. Il finit quand même 2 fois meilleur scoreur, donc du très très lourd. Mais il n'y a pas de résultat collectif. Ça a du mal à aller en playoff, ça perd, etc. Donc il n'y a pas suffisamment de bilan pour moi. Et T-Mac, je sais pas si je préfère le T-Mac à Orlando sous Doc Rivers ou si je préfère celui de Houston quelques temps après. Donc voilà, je l'ai calé en 5. Vous pourrez argumenter pour ceux qui l'ont mis plus haut juste après. J'enchaîne, moi perso. Voilà, allez. J'étais le dernier à dire, donc je passe direct au 4. Ah, Vincent, tu veux enchaîner ?
Bah, moi je peux enchaîner parce qu'en fait, les gars, on en a déjà parlé.
Ok.
Moi, en 4, j'ai Joël du coup.
Let's go ! Let's go !
J'ai Joël et en fait.
Merci les gars, putain, alors, j'ai une larme aux yeux.
J'ai dit que j'avais un peu priorisé la longévité avec le coach. Mais c'est vrai qu'en fait, là, ça marche pas avec Joel Embiid, mais parce que je pense qu'en fait, dans tous les joueurs qu'on a, hein, il y a jamais... Doc Rivers n'a jamais coaché de joueur aussi dominant que Joel Embiid.
Ah bah ouais, c'est clair.
Je pense.
Ah ouais, complètement.
Donc en fait, moi, c'est pour ça que je le mets 4. Après, je peux pas le mettre au-dessus, parce que c'est vrai que les deux saisons qu'il fait avec Doc Rivers, bah du coup, ça me donne... c'est pas assez. Si Doc Rivers, il reste encore 3-4 ans, que Joel Embiid, il finit podium MVP tous les ans avec lui, bah vas-y, il va passer 2, bon, peut-être 1, on sait pas en fait.
Ah ouais, complètement, ouais.
Donc voilà, il a fait 2 saisons avec Doc Rivers, il finit 2 fois sur le podium MVP, il fait des stats monstrueuses, enfin, on connaît Joel Embiid. Donc moi je le mets 4 parce que pour moi il était obligé d'être dans le classement.
Moi je suis d'accord avec toi, je l'ai mis 4 aussi parce que pour moi Doc Rivers en fait il a eu aucun joueur MVP. Alors il a eu Kevin Garnett mais il était MVP avant d'arriver sous Doc Rivers. Ouais. Et en fait, pour moi, Joel Embiid, c'est le seul qui a été aussi proche d'être vraiment MVP. Blake Griffin a été podium, mais même s'il était podium, il était vraiment, vraiment genre 8 crans en dessous des mecs qui étaient devant, donc LeBron et Durant. Et du coup, bah ouais, Joel Embiid, en fait, le niveau de dominance, la production statistique, et puis en plus, depuis que Rivers est arrivé, Embiid, il s'est mis à défendre, il s'est mis à avoir un vrai hustle. Les résultats en playoff sont pas encore là. Mais normalement, en tout cas, je l'espère, ça devrait arriver. Donc, Inch'Allah, il va grimper dans les années à venir.
Bah, ça me fait plaisir, les gars, vous voyez. Je suis content, je suis fier de vous. Je vous ai bien aidé.
Vas-y, t'as mis qui en 4, Gus?
Bah, moi, du coup, j'ai swipe avec Vince, j'ai mis Blake Griffin.
Ok.
J'ai mis Blake Griffin, bah, l'argument, c'est aussi la longévité. Et puis, c'est aussi que, en fait, bah, je pense que ça va être un argument qui va revenir peut-être plus tard, mais en fait, Lob City. Si les Clippers sont une franchise qu'on peut nommer, qu'on peut croiser des gens avec des maillots dans la rue, c'est aussi grâce à Lob City, et Lob City, c'est Doc Rivers. C'est Doc Rivers parce qu'il y a eu Chris Paul, parce que Blake Griffin, et en fait, bah, Blake Griffin, sa saison rookie, met poster sur tous les big men de la ligue, il s'en bat les couilles, il y a des trucs de ouf sur Pau Gasol, enfin bref, laisse tomber. Enfin, moi, c'est... Quand on me dit Clippers, je pense tout de suite Lob City, et Doc Rivers est sur la photo dans ma tête.
Okay. Et moi, j'avoue que ça a joué aussi hein, pourquoi j'ai rentré Blake Griffin, l'aspect visuel et l'aspect je tomarre sur tout le monde et tout.
Ah, enfin, ça joue à l'affect. Ah, c'est pas objectif.
Non. Ça fait partie de la greatness. Il est fou.
Ouais, voilà. Moi, clairement, il y a eu aussi un peu de ça. Oui, forcément. Et parce c'est que bon, moi, il y a un mec que j'ai. Moi, il y a un mec que j'ai pas mis. Peut-être que vous avez mis, mais c'est peut-être un blasphème, mais vous verrez.
Ok.
Et toi, Miguel, t'as mis qui en 4?
Bah, apparemment, on a le même classement, mec, parce que j'ai aussi Blake Griffin en 4.
Ah, let's go.
Ah, mais les gars, en fait.
Bah, mon gars, sûr.
Vous avez déjà bien dit ce qu'il y avait à dire, mais juste, les gars, c'était une machine à highlight. C'était.
Ah, bah, ouais, clairement.
C'était incroyable à voir. Et c'était. En vrai, c'était dominant. C'était, je pense, comme tu l'as dit, Rémi, moins dominant que Joel Embiid aujourd'hui. Mais putain, qu'est-ce que c'était beau à voir. Et...
C'est peut-être le deuxième joueur le plus dominant qui a joué sous Doc Rivers. En vrai, c'est pas impossible. Ou en tout cas, faudrait faire un autre classement, mais il peut rentrer dans la discussion.
Ouais.
Ouais, je pense. Mais surtout qu'il était à son prime, en fait. Et... Enfin, c'était beaucoup trop fort. Et je le mets à 4e. Voilà, tout simplement.
Okay. Ça marche. Okay. Vas-y, bah, Miguel, t'as fini. T'enchaînes avec le 3.
Ah, cool, ça.
Ah, c'est bon, ça, on sait pas.
Ok. Le 3e. J'ai mis Kevin Garnett.
Ok.
Alors, moi, il y était il y a encore 7 minutes, je pense. Troisième. Ah,
alors, moi, j'enchaîne. J'ai aussi Kevin Garnett en 3.
Ok, les gars.
Et, ok. Donc, Rémi et Migos, 3.
Vas-y, Miguel, explique pourquoi t'as Garnett en 3, là.
Ouais, du coup, Kevin Garnett, 3e, parce que dans le podium MVP, l'année où ils ont le titre, et c'est beaucoup trop fort. C'est forcément, c'est pas le Kevin Garnett qu'on a eu à Minnesota. Il était en plus en fin de carrière à ce moment-là, mais ça reste beaucoup trop fort, beaucoup trop dominant, et impossible de pas le mettre sur un top 5, sur ce top 5.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je complète. Il a 30 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, quand il arrive à Boston. Donc ouais, légèrement sur le déclin, mais en fait, le mec, il fait quand même 20 points, tire bon, il défend sur n'importe qui. C'est le leader défensif de l'équipe, c'est le leader vancal. Il y a le leadership, il y a le hustle. T'as pas envie d'aller faire chier Boston dans la raquette, parce qu'il y a Kevin Garnett. Alors, il est aidé, hein, il y a des mecs comme Kendrick Perkins et tout à côté qui font le taf. Mais en fait, Kevin Garnett, il fait tout le taf défensif à lui tout seul. Et offensivement, il y a la régularité, le mec est toujours présent. Et dans le vestiaire, si ça file pas droit, bah en fait, Kevin Garnett, il fait en sorte que ça aille droit. Donc, je pense que ça devait être un... Enfin, des fois, ça devait être très chiant, mais après, quand tu le voyais sur un parquet, ça devait être un bonheur quand t'étais coach d'avoir Kevin Garnett dans ton équipe.
Et ben moi en troisième, juste avant, j'ai dit que j'avais Blake Griffin en 4, et qui de mieux pour lui envoyer des grosses passes décisives que Chris Paul, qui est sur mon podium, à la troisième place. Parce que, comme on l'a dit, Lob City... Chris Paul est devenu point god à ce moment-là, en fait. Et tout simplement, Chris Paul, donc on parlait des highlights, etc., mais c'est là qu'on a vu qu'il était de plus, enfin, qu'il pouvait tenir cette longévité à ce niveau d'excellence. On parle de presque 9 passes de moyenne sur sa carrière, et en termes de perte de balles, c'est énormément propre. Et c'est un super meneur. Il a mené son équipe aussi en play-off. Bon, ça n'a pas été très loin. Mais c'est lui qui a été le gestionnaire de ce Lob City, et pour moi, ça passe clairement devant Blake Griffin, et ça rentre tranquillement sur le podium. Et évidemment, les joueurs que j'ai choisis après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte que juste l'attitude et puis tout simplement la beauté du jeu.
Ok. Tout le monde a donné son 3, là ?
Non, moi, Vincent. J'ai pas donné mon 3.
Vas-y, Vincent.
Mon 3 que tu as parlé tout à l'heure, Rémi, que tu as mis en 5.
Parce c'est T-Mac.
C'est T-Mac que j'ai mis en 3.
Putain, non.
Ouais, je l'ai mis en 3 et je vous avoue que je l'avais plus haut. Mais je l'ai descendu, en fait, je l'ai descendu parce que les résultats collectifs, en fait, ont fait que... Oui, c'est un super joueur, mais il n'a pas fait gagner son équipe, en fait. Et ça rentre en compte. Après, il a envoyé des lignes de stats.
Est-ce que ce serait pas à cause de Doc Rivers que ça n'a pas gagné?
On avait dit pas de blague sur Doc Rivers.
J'ai pas pu
m'empêcher. C'est qui avait dit ça en plus? C'était Rémi qui avait dit pas de blague sur Doc Rivers, le premier qu'on envoie une. Tiens.
Pendant l'intro. Ah.
Donc ouais, offensivement, c'était un monstre. Clairement, il a envoyé des saisons. Mais les 4 saisons qu'il a envoyées, il envoie pas une saison en dessous de 27 points de moyenne déjà. Donc ça montre formidable joueur que c'était. Voilà, c'est les débuts de T-Mac et c'était sous Doc Rivers. Clairement, voilà, pour moi, c'est...
Ça me fait plaisir que tu l'aies mis...
Je te dis, moi, avant, il était même 2. Il a descendu
de là. J'ai eu énormément de mal à le placer.
Tu vois, je l'ai pas dans mon classement.
Tu l'as pas rentré ?
Je l'ai pas. Et c'est vrai que l'argument qu'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Miguel, ou c'était toi, Rémi, que... Ouais, que T-Mac Houston n'était pas du tout le même genre de joueur que T-Mac Orlando. Et T-Mac Orlando, pour le coup, alors il y a beaucoup moins de shoot, mais par contre, l'attitude, le gars, en fait, c'est John Moran dans le corps de Kobe. C'est un truc de fou.
Enfin, c'est...
Pour le coup, en termes d'image et tout.
Le mec a tous les tickets shoot, il peut dunker sur qui il veut, il peut shooter de où il veut. À l'époque, le 3 points n'est pas encore trop démocratisé, mais enfin, T-Mac, s'il jouait aujourd'hui, putain, comment il se régalerait en vrai.
Ce serait énorme.
Non, c'est pour ça. Moi, je l'avais mis un peu plus haut, je l'avais mis 2. Je l'ai descendu. J'ai mis quelqu'un d'autre à la place.
Ok.
je peux enchaîner si vous voulez.
Vas-y, enchaîne, Vince.
Et bah, du coup, j'enchaîne avec mon 2 qui s'agit d'être Kevin Garnett. Moi, je l'ai mis en 2.
Moi aussi, je l'ai en 2.
Moi, je l'ai mis en 2. J'ai inversé, en fait. J'ai inversé T-Mac et Garnett, là, il y a 7 minutes, en fait. Parce que, en fait, c'est vrai que l'argument de la bague, en fait, il est trop
important. Ça joue beaucoup, hein.
En fait, il est trop important. Garnett, il arrive à Boston, il prend une bague directe.
Après, alors attention, il n'y a pas que Garnett qui arrive à ce moment-là. Alors,
non, on est d'accord. Il n'y a pas que Garnett qui arrive. On est d'accord. Mais défensivement, ce qui t'amène, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais ce qui t'amène défensivement et même offensivement, au final, hein. Quand il arrive, il tourne à 29. Hein, donc voilà,
c'est pas compliqué, mais 20 points tous les soirs en fait.
Voilà,
à l'image d'un Tim Duncan. Ce soir, tu fais quoi? 20 points, dire bon. Okay. Voilà, tu te poses pas de questions.
C'est clairement ça. Il est fini podium MVP cette année-là. Et voilà, c'est clairement Garnett. Je pouvais pas ne pas le mettre dans le top 5. Je pouvais même pas ne pas le mettre dans le top 3. Et voilà, je l'ai monté d'une place par rapport à T-Mac. Et voilà.
Bah, du coup, moi aussi, je l'ai mis. Moi aussi, je l'ai mis en
tu
deux.
Tu l'as mis en deux aussi.
Et j'ai mis en deux.
Moi, j'avais déjà en trois, moi.
Ouais, j'aurais mis en trois. Non, non, moi, je l'ai mis en deux, bah, parce que, comme l'a dit Vincent, la bac compte, et c'est surtout, il y a un truc de ouf qui se passe à son arrivée. C'est-à-dire que Boston passe de... Hop, que je trouve... Que je dis
du coup,
pas
ça veut dire que si vous avez Kevin Garnett en deux, ça veut dire qu'il y a...
Ah, ouais, il y a du blasphème, on l'a dit. Hein. Il y a du blasphème,
ah,
on l'a dit.
Ah, c'est chaud.
Donc, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de blasphème.
Quand il arrive...
Pas de blasphème ici.
Boston était une défense average et encaissait 109 points par match, 106 points par match. Quand il arrive, elle passe à 98 points par match. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur la saison, tu encaisses moins de 100 points. Et tout simplement, cette différence, c'est juste Kevin Garnett, en fait. Et ouais. De son aspect de leader défensif, parce que oui, il y a du mec qui savent défendre autour, mais c'est un meneur d'hommes. C'est, si les Celtics sont aussi bien placés en playoff et vont jusqu'au bout cette année-là, c'est grâce à leur défense et leur leader défensif, c'est Kevin Garnett. Et Kevin Garnett, donc il y a les points, etc. Mais moi, c'est son aspect défensif qui est monstrueux et l'apport qu'il donne à Boston en une saison sur un trade, il est monstrueux. Et pour ça, ça rentre. Ça rend, moi, c'est deuxième sur mon podium. Et en plus de ça, il y a la bague au bout, donc magnifique, quoi.
Ouais. Miguel, ton top 2?
Bah, moi, ça va faire plaisir à quelques personnes. J'ai mis Tracy McGrady en deux.
En deux? Ok.
Ouais, je l'ai mis en deux, mais en fait, mais tout simplement parce que avant qu'il arrive à Orlando sous Doc Rivers, mais il a fait un jump, mais incroyable. Il chope le MIP direct première saison. Et, mais en fait, tu regardes ses stats, mais c'est un autre joueur, en fait. Et je pense que Doc Rivers en est pour quelque chose parce que il lui a donné son opportunité. Peut-être qu'il n'aurait jamais connu le succès qu'il a eu aujourd'hui grâce à Doc Rivers. C'est pas impossible.
Ouais.
Après, succès dans la loose quand même. Hein, mais...
Après, avant, quand il était à Toronto, ouais. C'était ses trois premières années. Et en plus de ça, il y avait son cousin qui prenait déjà tous les tickets shoot.
Bah,
aka Vince Carter. Il arrive à Orlando, on lui dit, bon bah écoute mec, en fait, il n'y a personne autour de toi.
Donc prends tous les shoots.
Fais ce que tu veux, frère.
Tu mets des œillères et tu joues au basket.
Ouais. Mais surtout qu'il arrive à Orlando, première saison, on lui donne 40 minutes de jeu en moyenne. C'est 10 minutes de plus qu'il avait à Toronto. Et juste, bah, ça n'a pas payé au niveau des résultats, c'est sûr. Mais après, on parle de Doc Rivers.
Ça rentre en compte aussi, hein, faut le dire.
Ouais, ça rentre en compte.
On ne pourra pas faire ces blagues-là pour tous les coachs. Hein. Là, pour profiter.
Non, bien sûr que non. Non, mais voilà, je ne me justifierai pas plus. Je le mets en deux.
Ok. Ok, ça me va. Et bah, moi, en deux, les gars, j'ai Chris Paul. Je l'ai monté jusqu'en deux parce qu'en fait pour moi Chris Paul quand il joue sous Doc Rivers en fait bah en fait c'est l'extension du coach. Genre c'est le coach. En fait c'est le coach.
C'est le coach point.
Parce qu'en fait tout simplement genre Doc Rivers techniquement à part les rotations, il avait plus rien à faire. Chris Paul, tu t'occupes de l'attaque ? OK. OK. Chris Paul, le mec il a un QI basket, c'est un meneur qui est tellement gestionnaire, qui est tellement bon, qui est tellement intelligent. En fait, quand tu joues avec un mec comme ça, le coach il peut partir, ça sert plus à rien.
T'es en train de dire que Monty Williams il a volé son koi ?
Et ouais, en fait, Monty Williams, le koi il devrait le donner à Chris Paul.
Ça se trouve, il est déjà exposé, c'est lui là, t'inquiète.
Non, mais pour le coup, ouais, comme tu dis, Lob City, en plus, moi j'ai adoré l'époque Lob City, c'est clairement, j'avoue, du coup, ça joue peut-être aussi un peu à l'affect. C'est aussi grâce à ça, du coup, que je suis fan des Clippers.
Bah ouais.
Mais Chris Paul, en fait, aux Clippers, c'est trop fort. Ça gère absolument tout. Blake Griffin, il aurait jamais eu ce niveau-là si Chris Paul n'était pas là. Je pense, je pense que Blake Griffin, il a ce niveau-là parce qu'il y a Chris Paul. Et rien à voir avec Doc Rivers.
Je pense que c'est DeAndre Jordan. Je pense que c'est acté.
Ça. Il a un contrat en NBA parce qu'il a joué avec Chris Paul.
Ça, je suis. Ouais. Non. Ça, je suis pas tellement d'accord.
Clairement, c'est un peintre en bâtiment, le mec.
DeAndre Jordan, ok, le mec, c'est
un voleur
à glace, c'est un délire et ça peut prendre 14 rebonds par match. Mais jamais il aurait fait des saisons à 11, 12, 13 points
en
moyenne.
Ah non, ça, je suis d'accord.
Il sait rien faire de ses 10 doigts. Il a fini avec le meilleur pourcentage au shoot de la ligue, à plus de 70%.
Ouais.
Bah, en même temps, il a mis que des dunks.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. 70% au dunk, c'est de la merde. Hein. Franchement, mec, c'est-à-dire que t'en loupes 3 sur 10, mec, c'est de la merde. Hein.
Bah, en fait, si on a 3, il y va tellement fort que le ballon tape au fond de l'arceau et ça dégage. Mais ouais, en vrai, Chris Paul, ouais, pour moi, en fait, c'est clairement la baguette magique de Doc Rivers quand il était aux Clippers. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour moi, c'est top 2.
Bah, c'est con, mais tu vois, je rebondis là-dessus, mais pour tous les fans de NBA, on a tous eu l'occasion d'acheter un maillot de Lob City, et ça a souvent été soit Chris Paul, soit Blake Griffin. Et juste parce que visuellement, elles sont trop kiffants. Et pas, même si t'en as rien à foutre des Clippers, en fait. C'est juste que les joueurs sont tellement spectaculaires que c'est comme aujourd'hui croiser des maillots de Jamorant. Les mecs sont pas fans de Memphis, ils sont fans du joueur, tu vois.
Ouais.
Et moi, c'est la même chose. Perso...
Qui n'a jamais pris les Clippers sur Touquet pour faire triangle, triangle carré?
Ah bah si, clairement.
Et moi, perso, je suis un Yankee, j'avais le maillot de Blake Griffin.
Voilà. Bah, moi aussi. Il est dans l'armoire.
Non, mais ça se comprend, ouais.
Clairement.
Normal. Bon, du coup, j'ai l'impression qu'on a tous le même 1.
Ah, si on n'a pas tous le même 1, je vous en prie.
On est tous d'accord pour mettre Tobias Harris en 1, du coup.
Mais par contre, moi, du coup, bah, perso, moi, j'ai pas Chris Paul, tu vois, par exemple.
Bah, moi non plus.
Bah ouais, du coup, c'est ce que j'ai compris. Bah,
attends, on parle du premier, et ensuite, on fait pourquoi on n'a pas mis celui.
Non, 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 moi, je vais même pas dire pourquoi, c'est Chris Paul.
Du coup, le 1, bah, c'est Paul Pierce, en fait.
Bah ouais.
Le 1, en fait, il n'y a pas trop de débat.
D'accord. Longévité, titre, moyenne de stats, hustle, clutchitude. Enfin, laisse tomber, en fait. Chier dessus pendant un match. Enfin, genre, c'est
Paul Pierce. L'espèce de shoot à deux à l'heure qui te met sur ta gueule. Et ça veut dire, mais sur ta gueule, mon gars.
Il saute même pas, le gars. Il a encore les pieds au sol, mais tu peux pas le défendre.
En vrai, on peut pas, c'est impossible de mettre quelqu'un d'autre que Paul Pierce, en fait. En fait, moi, quand on a décidé de faire ça...
Bah, moi, c'était Pierce en 1 et le reste.
Pierce en 1 et après, on va voir ce qu'on va faire, en fait, derrière.
Et après,
mais en fait, c'est obligé, parce que t'as la longévité. Le mec, il fait je sais pas combien de saisons avec Doc Rivers, il tourne à 25 points par match. Ouais. Alors, pas sur la fin, forcément, parce qu'il
a... Bah non, parce qu'il y a les autres qui arrivent aussi.
Et il y a les autres qui arrivent.
Il fait 9 saisons avec Doc Rivers.
Voilà.
Et sur toutes ces saisons, il passe jamais en dessous des 18 points. Sa pire saison avec Doc Rivers, c'est 2009-2010, il a 18 points. Mais parce que du coup, il faut qu'il partage le ballon avec Ray Allen, avec Kevin Garnett, etc.
Ça va en finale.
Donc il fait des sacrifices et ça le dérange pas. Et ça va en finale, comme tu dis. Sa meilleure saison, c'est 2005-2006. Il fait 27 points, 7 rebonds, 5 passes à 50% en shoot.
Non,
c'est insane.
C'est lourd, dans les années 2000. Hein. Les années 2000, je répète, la paye, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Marquer 27 points, c'est pas comme ça l'est maintenant. Hein. Donc c'est extrêmement lourd. Hein.
Quand il gagne la bague en 2008, ça se voit que Paul Pierce, il est plus content de le vivre avec Doc qu'avec KG et Ray Allen.
Bah, il vient d'arriver et c'est pas encore
Il y a un rapport père-fils entre les deux, si tu veux.
Ouais, il y a un truc comme ça, ouais, je suis d'accord.
Même si, bon, il y a eu des histoires dans le vestiaire de Boston depuis qui ont fait que bon, tout ce trio, ce quatuor Rivers, Allen, Garnett et Pierce est un peu dissous. Mais, en attendant, c'était une putain de belle story de les voir gagner ensemble, en fait.
Mais d'ailleurs, Paul Pierce a pas aussi joué sous Doc Rivers aux Clippers?
Si, en fin de saison.
Si. Il a fait un an aux Clippers, ouais, exact.
Il met un game winner magnifique.
Mais c'est vraiment en toute fin de carrière. Ouais. Donc,
il avait 38 ans.
Il est sur le banc, il a quelques minutes par-ci par-là. Il envoie des shoots, mais bon, il fait rien d'extraordinaire. Ouais, c'est sûr.
Mais oui, de toute façon, clairement, il n'y avait pas trop de débat sur le numéro 1.
C'est clair.
Non, clairement.
Bah, du coup, moi, j'ai pas rentré T-Mac et j'ai pas rentré Ray Allen.
Ouais, Ray Allen, bah personne l'a fait rentrer
personne
du coup.
Alors que
Ray Allen, excellent, mais
role player à ce moment-là.
Ouais, c'est ça. Il est le lieutenant du lieutenant, en fait.
Ouais, c'est ça. En fait.
C'est Paul Pierce de franchise. Kevin Garnett qui est clairement le lieutenant de qualité. Hein, on va pas se mentir.
C'est clair.
Et moi, je dirais que c'est même qui est en troisième rôle.
Je dirais même que c'est le lieutenant offensif.
Ouais.
Devant Garnett.
Ah ouais, complètement. Ah bah, il est ouf.
Mais par contre, de l'autre côté du terrain, effectivement, et dans le vestiaire, il était certainement à la troisième place dans la hiérarchie.
Il est trop utile, ouais, bien sûr. Et il y a Jared Rondo au-dessus, pour le coup, qui est dans la même équipe. J'ai pas pu le faire rentrer parce que trop jeune, mais enfin, le mec, il envoie quand même des saisons à 11 passes d'aise, quoi. Et ça le dérange pas.
Ouais,
il a fait du 20-20 sous Doc. Hein.
Du 20-20?
Il a fait un 20.20 passe.
Ah oui, d'accord, ouais, des matchs en 20-20. Ouais,
Non, une saison à 20-20, non.
Ah non, ça arrive pas, ça.
Vas-y, frère, j'ai pas vu ça.
Un peu,
j'aimerais bien.
Après, c'est pareil, on n'a pas rentré Kawhi et Paul George parce que forcément.
Il y a qu'un an.
Il y a qu'une année. Mais il y a qu'une année, en fait. Donc,
ouais. Parce que sinon, Kawhi, ça pourrait rentrer. Hein.
Bah oui.
Mais il y a qu'un an. Il y a qu'un an, ça choque contre Denver. C'est compliqué. Il y aurait le titre.
Ouais, c'est ça. Mais là, non. Ça rentre pas. Et après, malgré tout, sa saison individuelle, si tu prends sur une année et qu'on devait choisir qu'une année par joueur, bah, il est dans le top 5, je pense.
Ah bah par contre ça ouais complètement.
Bah si mais, tu dois choisir une année.
Ah bah ouais. Après, bah si attends, il t'envoie 27 points, 5 rebonds, 5 passes à quasiment 50%, la même année que Paul Pierce en fait.
Il, donc, je crois que même il est quasiment en 50-40-90 hein, sur la saison, il me semble. Il y a pas grand chose qui. Je crois que c'est juste les lancers.
Il est à 47% au shoot, donc après les autres, c'est pas, je les ai pas sous les yeux, ça a regardé, mais.
Mais propre, hein. Propre, ouais, ouais. Le Kawhi. Ouais.
J'ai pas rentré Tobias Harris.
Non. Non, mais.
Peut-être parce que pour ceux qui adorent les stats, bah, allez checker, en fait, Tobias Harris, c'est à peu près les mêmes stats que Kevin Garnett en 2008.
Il a son contrat actuel, c'est aussi... Ouais. Si... Moi, je voulais dire que s'il a son contrat aujourd'hui, comme... enfin, le contrat qu'il a, il l'a acquis avec sa saison où les Clippers vont en playoff avec une équipe de peintres, enfin, de peintres, de role-players, et qui ouais. défendent dur, où Doc finit 8e. Et du coup, c'était une belle équipe à avoir joué. Il y avait Montrezl Harrell à l'époque, Louis, enfin, c'était des vieux briscards. Mais c'était cool de voir cette équipe-là.
Ça a accroché un match ou deux face aux Warriors, on s'y attendait pas.
Bah, et ça ouais, doit être ça. L'année de Shai aussi, je crois, où Shai est arrivé, donc ça avait, c'était pas mal les Clippers.
Ah, c'est possible, ouais.
Ah oui, c'était ça, exactement, la Shai. Mais oui.
Shai, justement, il avait eu un gros apport, c'était sa saison rookie, je crois.
Il y a des chances, il y a des chances.
On n'a pas rentré James Harden non plus.
Non.
Pourtant, Miguel, il a voulu, hein.
Il a cherché.
C'était son numéro.
Il a forcé, mais il n'avait pas assez d'arguments, vraiment pas assez.
Quand on m'a expliqué les règles du top 5, ouais.
Longévité, une saison. Oh, mais on peut faire une exception pour Harden, sa barque, elle est longue aussi. Et...
ouais, et puis les saisons, c'est long, il y a pas mal de matchs et tout, genre.
Le mec, il t'envoie quand même 21 points, 7 rebonds, 10 passes, quoi.
Ouais, c'est sûr. Harden, c'est.
À voir ce que ça va donner.
Mais il n'y a qu'une saison, en fait.
Bah, c'est ça. Et encore, à peine, il est arrivé au mois de février. Donc,
Ouais, même pour une saison.
Ouais.
C'est clair.
C'est juste. Il y a qui d'autre que vous avez pas réussi à faire rentrer? J'ai pas réussi à faire rentrer Ben Simmons.
Lol. Très drôle, non,
en vrai,
ça. Très drôle.
En vrai, pour le coup, pour rester sérieux, moi, j'ai pas fait rentrer Blake Griffin. J'ai longtemps hésité en numéro 5 du coup, avec T-Mac. Ouais, c'est celui que j'ai pas réussi à faire rentrer. Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour moi, Blake Griffin, s'il a été aussi bon, c'est plus grâce à Chris Paul qu'à Doc Rivers. Et pour moi, T-Mac a été meilleur que Blake Griffin l'a été. Du simple fait qu'il a été deux fois top scorer. Donc j'ai préféré mettre T-Mac en 5.
Ça se tient. Tu vois, moi, j'ai pas fait rentrer T-Mac, mais c'est vrai que. Tu vois, c'est celui où quand j'ai commencé, j'ai fait mon top 5. Je dis putain, il y en a un, je voudrais bien qu'il soit dedans, mais j'ai pas réussi. Bah, c'était T-Mac. Ouais.
Le mec, il t'envoie quand même une saison à 32 points, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et puis sur les défenses d'avant. C'est pas les défenses d'aujourd'hui.
Ouais. Ouais, complètement, ouais.
On clôture là-dessus ?
On peut clôturer.
Allez. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter @WakeUpNBA. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres podcasts de notre label Podcast, à savoir Culture Rims, L'Actu dans le Bahut et BPcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le basket. Vive la NBA. Ciao.
Ciao.
Ciao.